Laudetur Jesus Christus.
Le chaos sur le front nord-syrien, Recep Tayyip Erdogan annonce qu'il ira jusqu'au bout de son offensive, malgré les appels de la communauté internationale. De ce côté, Donald Trump annonce vouloir sanctionner Ankara. On vote ce mardi au Mozambique, des élections générales très attendues, quelques mois après la signature d'accords de paix historiques dans le pays. Et nous l'entendrons, ce vote suscite des espoirs. C'est dans 2 semaines que le Royaume-Uni doit sortir de l'Union européenne et pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé, mais tout est encore jouable, annonce le négociateur de l'Union européenne. Puis en fin de journal, un point sur le synode spécial sur l'Amazonie qui continue au Vatican. Nous parlerons d'une problématique délicate, la formation des prêtres.
Le journal. Marine Henriot.
Bonjour à tous. À la une de l'actualité, la ténacité de Recep Tayyip Erdogan. L'offensive contre les Kurdes en Syrie se poursuivra, et ce jusque ses objectifs soient atteints, vient d'affirmer le président turc. Une annonce qui arrive après une nouvelle volte-face du président américain. Donald Trump veut sanctionner Ankara et demande aux Turcs de mettre fin à leur offensive anti-kurde dans le nord syrien, alors que c'est la décision du retrait des troupes américaines de la région qui est à l'origine de l'offensive en Turquie. Des tergiversations américaines qui bouleversent les stratégies des pays occidentaux en Syrie, la France et la Grande-Bretagne en tête. Les explications d'Olivier Bonnel.
C'est ce que l'on appelle une débandade. Suite au bombardement de la Turquie longuement préparé, les forces qui composaient la coalition internationale contre Daesh dans le nord de la Syrie se replient en quatrième vitesse après le retrait des 1000 soldats américains de la zone. Les Européens, France et Grande-Bretagne en tête, qui avaient des forces spéciales sur le terrain, se retrouvent particulièrement démunis face au nouveau rapport de force dans la région, avec cette crainte plus forte que tout, la résurgence de l'État islamique dont les combattants étaient gardés prisonniers par les Kurdes. Hier soir, lors d'un entretien téléphonique avec Donald Trump, Emmanuel Macron a rappelé la nécessité absolue d'empêcher que le groupe terroriste ne se réorganise. Le départ des forces spéciales américaines crée un vide que les alliés occidentaux de Washington ne sauraient combler. D'autres capitales européennes craignent que des cellules de l'État islamique ne profitent du chaos sécuritaire pour se reformer sur le terrain. En attendant, alors que l'offensive turque se poursuit, reste chez les Kurdes le sentiment d'une trahison des Occidentaux. Comme le résumait hier avec colère un médecin kurde soignant des victimes des bombardements, les seuls responsables de tout ça, c'est cette coalition de menteurs.
Olivier Bonnel. Et les réactions internationales continuent de pleuvoir, tandis que l'offensive turque entre dans sa 2e semaine. C'est au tour de la Chine, alliée de la Russie et de la Syrie, d'appeler la Turquie à stopper son intervention militaire. La Chine qui dit redouter l'évasion de terroristes. Des réactions politiques mais également économiques. Volkswagen suspend sa décision quant à la construction d'une nouvelle usine en Turquie. Le groupe automobile se dit préoccupé après le début de l'offensive turque en Syrie et annonce observer la situation de très près. Et pendant ce temps, Ankara continue sa politique de répression contre les Kurdes. Les maires pro-kurdes de 4 villes du sud-est de la Turquie ont été arrêtés ce mardi. Ils sont accusés d'appartenance ou de lien avec le PKK, le Parti des travailleurs au Kurdistan, une organisation considérée comme terroriste par Ankara. On prend maintenant la direction du Mozambique. Élection générale très attendue ce mardi. 13 millions de citoyens doivent renouveler leur président, mais également leurs députés et les gouverneurs de 10 provinces. Un scrutin important dans un pays qui a signé un accord de paix historique en août dernier entre le Frelimo au pouvoir et l'ancienne rébellion armée et le premier parti d'opposition, la RENAMO. Le Mozambique qui doit également faire face à de lourdes contraintes sécuritaires dans le nord, ainsi qu'à une grave crise de la dette. Mais malgré tous ces défis, ce vote suscite des espoirs. C'est ce que nous explique Maria Mangelez. Elle est directrice du Centre d'études interdisciplinaires de communication de Maputo, la capitale mozambicaine.
On a ouvert une nouvelle page. Et ça, c'est bon pour la démocratie. J'ai fait un tour dans le centre-ville. L'ambiance était vraiment conviviale. L'ambiance est très bonne. Donc, on va voir si ça va... J'espère que ça va terminer comme ça. Toutes les mesures pour affaiblir la possibilité de fraude ont été prises. Donc, nous avons les organisations de la société civile qui ont créé beaucoup de mouvements et beaucoup de plateformes de contrôle, d'observation électorale. Et aussi, on crée des plateformes pour le comptage parallèle de votes. Donc, ça aussi, ça a aidé à assurer les électeurs qui pouvaient aller voter. Donc l'électorat, il est plus engagé en fait pour cette élection parce qu'on n'a pas un candidat qui pouvait assurer en fait dans le début de la campagne qu'il allait gagner. C'est bien pour la démocratie, on dit que c'est comme si les candidats partaient dans le même point en fait.
Maria Mengelese, directrice du Centre d'études interdisciplinaires de communication de Maputo. Elle était interrogée par Olivier Bonnel. En Guinée, l'opposition ne lâche rien et appelle à poursuivre les manifestations d'opposition contre le président. À 81 ans, le président guinéen Alpha Condé souhaite réviser la constitution et ce, en vue de se présenter pour un troisième mandat présidentiel. Jusqu'ici, la constitution n'autorise que deux mandats successifs. Hier, la journée de mobilisation fut sanglante. 5 manifestants et un gendarme ont été tués. Direction l'Afrique du Sud, le procès pour corruption de Jacob Zuma est reporté. L'ancien président vient d'annoncer faire appel. Il est poursuivi pour corruption dans une vieille affaire de contrat d'armement impliquant l'équipementier français Thales. Plus de 3 ans après le référendum britannique de 2016, aucun accord n'a été trouvé pour éviter un divorce acrimonieux entre Londres et Bruxelles. Mais tout est encore jouable, annonce Michel Barnier. Le négociateur de l'Union européenne est arrivé ce matin à Luxembourg pour faire état de l'avancement des négociations devant les ministres chargés des affaires européennes. Les précisions de Marie Duhamel.
Selon Michel Barnier, un accord pourrait être conclu cette semaine. Il s'en explique, le Premier ministre britannique veut que son pays sorte de l'UE le 31 octobre prochain, comme prévu, volonté réaffirmée d'ailleurs hier, et cela semble avoir fait avancer les choses. Les Britanniques auraient bougé sur des points de blocage, on ne sait pas lesquels, les négociations ont été intensives, nous dit-on, ces 3 derniers jours. 2 points de désaccord sont encore à l'étude, la manière d'éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, tout en réalisant des contrôles douaniers. En France ou encore aux Pays-Bas, on s'inquiète d'une possible concurrence déloyale. Autre objet de litige, le droit de regard des Nord-Irlandais sur l'accord. Si ces points s'éclaircissaient, il faudrait ensuite traduire les intentions en un texte juridique, si possible d'ici jeudi, date du prochain sommet européen. Signe de l'optimisme britannique, Boris Johnson a convoqué pour un éventuel vote une session parlementaire extraordinaire samedi prochain. Faute d'accord, eh bien une loi votée en septembre l'obligera à demander un nouveau report du Brexit, ce qu'il refuse de faire encore catégoriquement.
Marie Duhamel. Nouvelle journée de colère en Catalogne. Plusieurs routes et voies ferrées sont encore coupées ce mardi par les manifestants, regroupés sous une organisation baptisée Tsunami Démocratique qui aspire à imiter le mouvement de Hong Kong. Hier jusqu'à tard dans la nuit, les accès à l'aéroport ont été bloqués. Il y a eu des affrontements avec la police. Un enfant de moins de 5 ans sur 3 ne reçoit pas l'alimentation dont il a besoin pour bien grandir. C'est le nouveau rapport alarmant de l'UNICEF. Environ un tiers des enfants de moins de 5 ans dans le monde est sous-nutri ou en surpoids et la moitié souffre de carences alimentaires. La sous-nutrition et la malnutrition n'appartiennent pas au passé, avertit l'UNICEF qui ajoute « Il ne s'agit pas seulement de donner aux enfants assez à manger, il s'agit avant tout de leur donner la bonne alimentation. » Au Vatican, le synode continue sa deuxième semaine de travaux jusqu'au 27 octobre et au menu, la formation des futurs prêtres, car les séminaristes sont peu et ils ne sont pas toujours prêts à faire face au contexte particulier dans lequel ils vont officier et selon certains pères synodaux, il faut ainsi s'ouvrir davantage aux réalités qui nous entourent. C'est l'avis de Monseigneur Francisco Lima Suarez. C'est l'évêque de Carolina, dans l'état de Maranhão, au Brésil. Prêtre de terrain, il est à la tête depuis 10 mois de son diocèse, situé aux marges de l'Amazonie.
Il faut tout d'abord vérifier le signe des temps que le pape Francisco nous remet. C'est la pédagogie du soin. C'est ça le mot clé de cette expérience. Donc il faut d'abord être ouvert dans une expérience du monde qui change, un monde liquide, un monde qui est éphémère. Donc, ce monde contemporain a besoin d'un ministère d'évangélisation que ce qui est prêtre puisse recevoir, capter les signes des temps, faire la vérification de tout ce qui se passe. Parce que l'Église, ce n'est pas la condition d'être enfermée dans son monde aujourd'hui, c'est s'occuper des gens.
Des propos recueillis par Xavier Sartre. Et une nouvelle du Vatican avant de se quitter. La gendarmerie vaticane a un nouveau commandant. Il s'agit de Gianluca Gozzi Broccoletti. Nommé par le pape François, il succède à Domenico Gianni. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite une très belle journée.